toujours en direct du congrès national annuel de la Société française de recherche opérationnelle et d'aide à la décision, le 24, 25, 26 février 2026 à Tours. Et nous recevons donc Nadia Brunner, un membre éminent du comité d'organisation du congrès, et en particulier qui vient d'être élu ou réélu au GDR-RO, le groupe de recherche du CNRS. Bonjour Nadia.
Bonjour Bertrand.
Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre parcours et puis qu'est-ce que un GDR et qu'est-ce que le GDR-RO?
Bien, je suis professeure des universités à l'Université Grenoble-Alpes, c'est-à-dire que je suis à la fois enseignante et chercheuse en recherche opérationnelle et décision. Et un GDR, c'est un instrument du CNRS pour porter sa politique scientifique. Et nous, nous sommes rattachés à l'un des instituts du CNRS, qui est l'Institut Sciences Informatiques. Il y a 10 instituts au CNRS, et dans cet institut, le GDR, c'est une sorte de labo hors les murs qui rassemble une communauté autour d'une thématique scientifique. Et nous, notre thématique, c'est la recherche opérationnelle et la décision. Et moi, donc, je suis directrice de ce GDR depuis un an maintenant.
Et un groupe qui organise un petit peu la recherche opérationnelle académique sur le niveau du territoire français et du CNRS, ça permet d'organiser des congrès, ça permet aussi de faire le lien entre la recherche académique et puis le ruissellement vers toutes les applications. Nous avons eu dans nos interviews des présentations de chercheurs qui étaient plus orientés sur les applications industrielles dans telle ou tel thème. On peut supposer que dans d'autres endroits, on aura plus des recherches théoriques. En quoi un GDR et le GDR-RO permettent de coordonner toutes ces choses-là?
Alors effectivement, le GDR est un instrument du CNRS, donc on va être sur une recherche académique, mais qui peut avoir des liens avec l'industrie. Et le GDR-ROD, de sa nature recherche personnelle et décision, ça va être de toute manière lié à des organisations, à de l'aide à la décision. Donc on va avoir un socle fondamental avec des mathématiques, de l'algorithmique, de l'informatique, et on va aller vers les applications, soit des applications industrielles, des applications territoriale, politique, d'organisation dans la santé, etc. Donc, et nous, on anime toute cette recherche avec des axes qui vont être basés soit sur des problèmes fondamentaux comme les graphes, la programmation mathématique, etc., soit des axes sur des thématiques plus appliquées comme le transport, la logistique, l'ordonnancement, avec cet appui toujours sur ce socle fondamental d'outils de la recherche opérationnelle.
Donc socle fondamental où chacun finalement vient se ressourcer et vient contribuer. Comment est-ce qu'on fait partie de ce groupe? On est coopté, on s'inscrit, on peut faire partie de plusieurs groupes. Je dis ça pour nos auditeurs, pour qui la recherche académique est quelque chose de très opaque à leurs yeux de jeunes, puisque la Radio Campus Tours a beaucoup d'auditeurs qui se destinent peut-être à être de futurs chercheurs, mais qui se testent en ce moment.
Alors pour vos étudiants, déjà ça s'adresse plutôt à des étudiants qui sont soit en mathématiques appliquées, l'informatique ou génie industriel par exemple, tout ce qui est lié à l'optimisation, la logistique. Et souvent à partir du master, certains vont s'orienter vers des envies d'aller creuser les outils ou creuser les applications. Donc à partir du Master 1, Master 2, s'il y en a qui sentent que ces thématiques les intéressent, de tout ce qui est optimisation des organisations, programmation mathématique, théorie des graphes, etc. Et à partir du Master 2, ils peuvent échanger avec leurs enseignants-chercheurs pour commencer à s'orienter éventuellement vers des stages de recherche. Et dans ce cas-là, dès le Master 2, ils pourront s'inscrire dans la liste du GDR, qui est un outil où les gens postent des stages, des postes, des conférences, des journées, etc. Donc ils vont être petit à petit intégrés dans cette communauté. Et après, s'ils continuent en thèse, ils vont naturellement rejoindre cette communauté par leurs encadrants, leurs laboratoires. Et après, ils choisiront les groupes de travail les plus proches de leur thèse.
C'est bien plus clair, j'ai appris des choses. Recherche opérationnelle et décision, c'est un acronyme qui est peu vulgarisé, en fait, qui est peu popularisé dans l'inconscient collectif. Mais on sent quand même que de plus en plus, ça prend racine et ça s'épanouit. Lors du congrès de 2005 à Tours de la ROADEF, vous étiez à peu près 600 participants. 21 ans plus tard, vous vous retrouvez quasiment... Vous étiez 300 participants. Et 21 ans plus tard, 600 participants. C'est un beau bébé. Comment est-ce que, le long d'une carrière comme ça, émotionnellement, qu'est-ce que ça vous fait de voir grandir ce bébé que vous avez porté ?
Alors effectivement, c'est un thème qui m'a tout de suite plu quand j'étais étudiante. Et après, je suis rentrée dans cette communauté, j'ai présidé la RODEF. Et j'ai vu cette communauté grandir aussi avec l'impact du numérique dans notre société. Donc ce thème qui est autour des optimisations des organisations, de la logistique, de comment faire vivre des systèmes industriels, des systèmes territoriaux, politiques, etc. On sent que ça a vraiment émergé comme besoin dans la société, ça s'est diffusé auprès des étudiants et cette communauté a effectivement beaucoup grossi. Avec aussi beaucoup de postes industriels qui fait qu'on forme plus d'étudiants. Donc c'est une communauté qui a trouvé sa place. Alors le thème recherche opérationnelle est peut-être un petit peu moins connu dans la société. On va plus parler d'optimisation, de logistique, d'organisation. Mais voilà, c'est le thème historique et on garde ce nom.
Donc vous avez été également présidente donc de la ROADEF, la Société française de recherche opérationnelle et d'aide à la décision. Maintenant vous êtes directrice du GDR ROD. Quelle est la différence un petit peu entre les deux ? C'est juste une structure ou il y a une différence plus organisationnelle ou plus politique ? Pourquoi pas ?
Ah, effectivement, c'est une question qui revient souvent. La RODEF, c'est une société savante qui vit autour d'une communauté et cette communauté rassemble des industriels, des jeunes, des chercheurs académiques. C'est un petit peu plus large, on va dire, que le GDR ROD, qui est un instrument de politique scientifique du CNRS. Donc il ne vit que parce que le CNRS a choisi aussi de le faire vivre, même s'il est porté par cette communauté. Et notre rôle, peut-être, nous sommes au niveau du GDR un petit peu moins ouverts. C'est-à-dire que la RODEF a vocation à accueillir tout le monde, tous les industriels, tous les gens qui veulent, qui sont intéressés par le thème, alors que le GDR, c'est vraiment porter une politique scientifique et les gens qui sont vraiment dans une recherche plus académique. Alors on accueille aussi des chercheurs industriels qui veulent s'appuyer sur des outils fondamentaux, mais c'est peut-être un petit peu moins ouvert que la RODEF. Et puis la pérennité n'est pas la même, la RODEF est portée par la communauté, le GDR est porté par le CNRS.
Merci, c'est beaucoup plus clair. En tant que donc, présidente de la RODEF, de cette société savante, évidemment, vous avez des problématiques de savante, mais vous avez été confronté, je suppose, à des problématiques de financement, des problématiques de politique. Comment est-ce que, si ce n'est pas indiscret, vous avez vécu ça et comment vous y avez survécu ?
Alors, On a une grande chance en recherche opérationnelle et décision, c'est que c'est une thématique qui intéresse beaucoup les industriels et qui intéresse aussi beaucoup le monde académique, et nous n'avons pas tant de problèmes de financement que ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut être très attentif à réussir à financer la recherche plus fondamentale, qui n'a pas nécessairement de lien avec les industriels, mais dans le thème de la recherche opérationnelle et la décision, en tout cas au niveau de la RODEF ou du GDR, la question des finances de projets, de journées, etc., ne pose pas problème. Là où on pourra avoir plus de problèmes et où on essaye de porter des actions, c'est d'obtenir des postes. Donc là, c'est du financement à beaucoup plus long terme. Donc pour obtenir des postes au CNRS, dans les laboratoires, l'enjeu, c'est de vivre, de montrer qu'il y a une communauté active, un vrai besoin sociétal, et puis un besoin d'outils fondamentaux aussi. Ça, on y tient beaucoup, parce que le besoin sociétal, on n'a pas vraiment besoin de le défendre. Là, les politiques en sont bien conscients. Par contre, de continuer à financer une recherche plus fondamentale en mathématiques et en informatique, là, il y a un vrai enjeu. Et on va faire remonter des défis scientifiques pour que le CNRS ou les universités ouvrent des postes sur ces thématiques peut-être plus fondamentales ou les thématiques en recherche opérationnelle. Donc pour pouvoir obtenir des postes ou des projets ANR, des plus gros... Alors ANR, excusez-moi, c'est l'Agence nationale de la recherche... pour avoir des projets avec des plus gros financements, pouvoir payer des doctorants, des post-docs. Mais ça sort un petit peu du cadre de la RODEF ou du GDR. Nous, notre rôle, ça va être de porter ces thématiques pour qu'elles existent le jour où le CNRS ou l'université voudra faire sortir des postes.
Donc je suppose qu'un... une charge de directrice ou de présidente d'association, bien évidemment, il y a tout l'aspect administratif, tout l'aspect management, etc. Il y a aussi l'aspect d'ouvrir un petit peu des perspectives. Nous avons reçu quelques interviewés qui, effectivement, essayaient de sensibiliser leurs étudiants et les futurs chercheurs à des thématiques comme la sobriété, à des thématiques comme l'éthique. Comment est-ce qu'un président d'association ou de groupe de recherche, ça fait partie de son travail aussi ou pas du tout?
Ah oui, c'est complètement central. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la direction du GDR. C'était pour pouvoir porter, donc j'étais directrice adjointe avant. Et mon objectif, c'était de pouvoir porter aussi ces thématiques autour de l'éthique qui m'intéressait et des enjeux territoriaux. Et nous avons donc monté avec des collègues un groupe de travail autour de l'éthique, autour de environnement et société. Et aujourd'hui, c'est un axe du GDR, un axe structurant du GDR parmi les 7 axes du GDR. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que j'avais envie de faire vivre, en fait. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette direction. Il y en a d'autres. Et aujourd'hui, je suis très fière de participer à ce mouvement où on anime justement toute une communauté et on crée des ressources pour les enseignants, pour les chercheurs, pour enseigner autour de ces questions d'éthique, par exemple. Ou bien on organise des journées. Donc l'année dernière, on a organisé une journée aide à la décision dans les politiques publiques sur ces thématiques. Alors bien sûr, c'est le groupe de travail qui va organiser, mais au niveau de la direction, ça me permet de faire vivre, d'animer, de dire c'est un axe structurant du GDR et de vraiment le porter, ouais, avec mes collègues.
Donc dans un axe social et environnemental, si on peut dire, est-ce que c'est pour l'instant à l'état de projet ou est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus pour nos auditeurs qui viennent de dresser l'oreille en entendant le mot social et environnemental?
Alors, bien sûr, donc nous, l'idée, c'est que l'éthique va nous permettre de fonder la réflexion et le questionnement sur nos outils. En s'appuyant sur les grandes théories morales, sur les éthiques appliquées d'aujourd'hui. Donc essayer de donner des outils. Et puis après, moi, un des thèmes qui m'intéresse, c'est les politiques publiques et les territoires. Donc tout ce qui est organisation des territoires, qui va avoir un enjeu En fait, on ne va pas le retrouver dans les problématiques industrielles puisqu'on est hors du système de rentabilité. On est dans des systèmes plus administratifs, mais on va aller aussi sur les problématiques de commun, par exemple. Donc comment faire vivre ces questions de logistique autour des communs numériques, des communs logistiques, les questions de politique publique. C'est aussi des thèmes qu'on va essayer de faire vivre dans ces groupes de travail, en fait. Et avec des exemples, donc on est en train de monter des études de cas, de montrer des recherches qui se font sur ces thématiques-là.
Alors, un groupe de travail sur l'éthique, vous avez l'importance des territoires, vous avez mentionné aussi que le GDR, c'était un instrument de politique scientifique. Est-ce que, à votre sens, Nadia Brunner, on peut dire que vous faites de la diplomatie scientifique ?
J'aime beaucoup le terme de diplomatie. Alors, on a un rôle politique puisqu'on a une visibilité à travers la direction du CNRS, à travers ce poste, ça nous permet d'arriver vers les mairies, vers les chambres d'agriculture, par exemple. Donc, nous travaillons aussi à la médiation. Alors, je ne sais pas si la diplomatie couvrait aussi ce terme. La médiation scientifique auprès des décideurs, par exemple, et puis auprès d'un public qu'on aime beaucoup, qui sont les étudiants, les lycéens, les jeunes. Donc, on fait des articles dans, par exemple, la revue Tangente, qui est une revue autour des mathématiques pour les lycées et les prépas. On fait des articles dans la revue Interstice, qui est une revue de l'INRIA de médiation autour de l'informatique, et pour aider les jeunes à connaître ces thématiques-là. Et puis, pour le grand public aussi, quand on fait des articles sur la théorie des votes, je sais qu'il y a des maires qui s'intéressent à ce que nous faisons, des maires MAIRES, qui s'intéressent à ces travaux et qui viennent, ou bien autour des budgets participatifs aussi. On essaye de faire de la médiation sur ces thèmes-là. Et c'est vrai que le GDR porte aussi ses actions vers le monde socio-économique, vers les territoires et les politiques.
Est-ce que ça veut dire que les préoccupations éthiques des chercheurs et chercheuses, soit en RO ou dans d'autres domaines, vous semblent audibles, écoutées par les élus ?
Alors, les questions éthiques, nous, ce qu'on va apporter, c'est voilà les outils et voilà leurs limites. Les élus sur les territoires sont très sensibles à ça. Quand on est au niveau des communes, etc., ils sont très intéressés par ces problématiques, budget participatif, théorie des votes, etc. Après, est-ce que vous entendez quelque chose de plus large, par exemple ?
Par exemple.
Après, est-ce qu'on remonte ? Alors, on va faire de l'analyse de certains systèmes sociotechniques avec des critiques, puisqu'on connaît bien ces outils. On va essayer de montrer leurs limites, donc, par exemple, on va travailler sur les outils d'aide à la navigation routière, comment ces outils qui sont basés sur des algorithmes qu'on connaît très bien, qu'on développe, peuvent changer la vision des territoires, avoir des impacts, etc. Et on va, par exemple, j'ai des collègues qui travaillent avec des communes pour développer des outils alternatifs pour que, justement, enfin, vous voyez, la question de la navigation routière, c'est que ces outils vont vous emmener dans des endroits où vous n'avez rien à faire, en fait, par exemple. Et on a des collègues qui vont travailler avec les communes pour voir comment travailler avec ces outils, puisqu'on connaît leurs limites, on connaît leur fonctionnement, comment faire pour qu'ils soient moins nocifs au niveau des communes, par exemple, ou posent moins de problèmes.
Allez, une dernière question pour moi. Donc vous avez aussi évoqué le lien que vous pouvez avoir avec des élus locaux sur peut-être l'envie d'avoir plus de postes au CNRS. Voilà. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous considérez peut-être que la RO intéresse moins les élus et les partenaires financiers que l'IA ? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur l'IA ?
C'est une excellente question. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de groupes de héros, je vais aller dans le même sens que vous, qui avant s'appelaient groupes de héros et qui maintenant s'appellent héros IA, puis IA héros, puis IA, et où en fait on fait de la héros. L'IA est un outil aujourd'hui qu'on ne peut pas faire semblant de ne pas voir. En même temps, si je vois à mon niveau, ça attire. L'IA est un thème qui attire beaucoup les étudiants. Et ils vont se rendre compte que l'ARO, quelque part, c'est faire de l'aide à la décision un petit peu comme fait l'IA, avec des outils mathématiques et informatiques qui les intéressent. Donc l'IA, quelque part, peut aussi attirer les gens vers les outils d'optimisation. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop, bien sûr? C'est un terme qui est sorti, qui plaît, qui fait rêver. Voilà, alors l'IA, souvent, les gens pensent les grands modèles de langage. Mais à partir du moment, nous, on a toute une partie du domaine qui est très liée à l'IA, tout ce qui est IA symbolique, programmation par contrainte. Alors, excusez-moi si j'emploie des termes. Programmation par contrainte. Et puis l'IA va être un outil pour nous, puisqu'on a vraiment l'habitude de travailler avec les données. Ben, on va utiliser cet outil pour travailler mieux avec les données ou pour aider nos algorithmes aussi. Il y a tout un pan de la recherche qui se fait là-dessus. Après, c'est effectivement un outil à la mode et un terme à la mode.
C'est passionnant, on pourrait vous écouter pendant des heures, mais les devoirs et les missions d'une directrice et présidente, c'est aussi de préparer des AG, de les diriger, tout ça. Donc, merci bien de nous avoir accordé de votre précieux temps, Nadia Brunner.
Merci.